Ce matin, de réfléchir sur des notions, des termes qui sont en usage en France pour désigner les réalités sociales liées à l'immigration, pour penser, pour désigner les personnes qui sont concernées par le phénomène migratoire. L'idée étant donc de se pencher sur tout ce vocabulaire qui est en usage en France particulièrement, je vais quand même me baser beaucoup sur l'expérience française, pour penser et pour donc se représenter ces populations présentes en France, qui ont migré, qui sont étrangères et parfois de nationalité française. Je vais beaucoup me baser sur mes propres recherches, sur mes propres travaux, mais aussi sur des travaux de tout un ensemble de sociologues, mais aussi d'historiens et d'anthropologues, qui ont été pour la plupart pionniers et qui ont permis qu'en France se développe un champ de la sociologie qui s'appelle la sociologie de l'immigration, des relations interethniques et du racisme. Et donc à la fin de la conférence, en fait, je vous ai préparé une petite bibliographie indicative que je vous distribuerai, qui vous permettra, pour ceux que ça intéresse, d'approfondir certains points ou de revenir sur des points que j'aurais pas eu le temps de détailler dans le temps qui m'est imparti. L'objectif vraiment, donc moi j'ai intitulé la conférence « Immigrés, point d'interrogation, étrangers, point d'interrogation, minorité ethnique, point d'interrogation ». L'idée c'est de travailler sur l'enjeu de tous ces mots, de montrer qu'on a affaire à des catégories qui sont absolument pas neutres, et de voir un petit peu, d'essayer de comprendre de qui on parle, de quoi on parle quand on emploie cette terminologie depuis maintenant plusieurs années, mais particulièrement dans le débat actuel. Donc, vous restituez tout un ensemble de discours et de modalités de pensée de ces réalités-là, de ce phénomène migratoire, et mettre en évidence toutes les connotations qui sont associées à ces mots. Bien évidemment, on va voir que autant on a l'impression que le terme immigré et le terme étranger sont des termes interchangeables, et si vous réfléchissez, vous auriez tendance à employer un terme pour l'autre en ayant l'impression qu'on parle à peu près des mêmes personnes et que ça peut être synonyme. On va se rendre compte que non seulement il existe des différences importantes, mais qu'effectivement, dans les usages sociaux, dans les représentations courantes, on a souvent affaire à l'idée que ces termes peuvent être interchangeables. Donc moi, je vais vous amener à réfléchir sur ces catégories, essayer de vous montrer que la manière dont le phénomène migratoire est présenté et décrit en France dépend complètement de nos catégories de pensée, et plus particulièrement des catégories de pensée très liées à un contexte national particulier. La manière dont on pense l'immigration en France n'est pas la même qu'aux États-Unis, par exemple, en Italie, par exemple, et dans d'autres contextes migratoires. Donc une réflexion sur les mots, une réflexion sur les mots qui sont utilisés par habitude, avec l'idée de montrer comment il y a une évolution selon les contextes, selon les périodes. Alors ça peut paraître très ambitieux, en 45 minutes, je ne vais pas pouvoir vous balayer tous les enjeux à chaque période particulière depuis que l'immigration s'est développée dans la société française. Mais l'idée c'est de bien montrer qu'on a affaire à des catégories qui ne sont pas neutres et qu'il faut interroger. Quand j'acceptais l'invitation, j'étais vraiment dans l'idée de vous apporter un ensemble de connaissances, puisque je vous dis, il y a tout un ensemble de sociologues, d'historiens, d'anthropologues qui ont travaillé cette question du phénomène migratoire, notamment dans la société française. Mais j'avais aussi envie de vous faire découvrir l'intérêt de la posture du sociologue, puisque donc, moi, je vais vous parler en tant que sociologue. Et une des spécificités de cette discipline, c'est qu'elle se donne pour objectif de révéler et d'identifier tout un ensemble de phénomènes qui sont enfouis dans des évidences qu'on partage, dans tout un ensemble d'évidences partagées dans notre vie de tous les jours. Et mon idée, c'est voilà, de vous familiariser avec cette posture du sociologue qui se construit avec l'idée de rompre avec ce qui est cru collectivement, de rompre avec tout un ensemble de représentations, de prénotions, d'évidences communes qui se trouvent être généralement, la plupart du temps, des erreurs premières. Et le fait... Alors, on parle de la sociologie souvent comme d'une science critique, et l'entrée par la question des termes, des notions immigrés, étrangers, minorités ethniques, de qui on parle, de quoi on parle. L'idée, c'est de bien montrer qu'en m'intéressant à ces termes-là, c'est aussi une manière de révéler tout un ensemble de mécanismes sociaux qui sont cachés, de logiques sociales qui sont cachées derrière ces phénomènes de catégorisation, de désignation des gens, et pas seulement des gens, mais aussi de leurs pratiques. Comment on associe un terme, un mot, un ensemble de pratiques qui nous permettent de dénoncer une présence étrangère, etc. etc. Donc, cette discipline de la sociologie, elle consiste vraiment à poser des questions aux évidences quotidiennes. Donc, l'idée, c'est de vous amener à vous interroger aussi à qui vous pensez quand vous employez le terme immigré, quand vous employez le terme étranger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler d'ethnie ou de minorité ethnique pour désigner un groupe, désigner des pratiques associé à un groupe, etc. Un exemple, et j'y reviendrai plutôt à la fin de la conférence, l'expression « jeune issu de l'immigration ». L'idée, ce serait de se poser la question pourquoi, dans le langage de tous les jours, et en particulier dans le langage des médias, mais pas seulement, cette expression « jeune issu de l'immigration » va être employée pour désigner des personnes qui n'ont jamais migré, par exemple, la plupart du temps. Et pourquoi ce terme, en général, désigne plus particulièrement des enfants de personnes qui ont migré d'un des trois pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, et très très rarement de personnes dont les parents viennent d'un pays d'Europe, de l'Est ou même d'Europe du Sud. Pourquoi, enfin, cette expression est employé pour des gens qui ont 35, 40, 50 ans et qu'on continue à parler d'eux en termes de jeunes issus de l'immigration. Voilà. C'est ce type de questions-là qu'on se pose quand on se dit sociologue, spécialiste de l'immigration, des relations interethniques, du racisme et des discriminations. Et c'est là-dessus que j'ai envie de revenir ce matin pour vous amener voilà, à saisir un petit peu ce qui fait la spécificité de ce regard et en quoi ça peut être intéressant d'interroger et de ne pas prendre pour argent comptant ces fausses évidences et ces catégories qui semblent être, qui sont rentrées dans le langage courant et qu'il faut, à mon sens, interroger. Alors, je vais, ce sera l'occasion, bien évidemment, puisque je parle en tant que sociologue, de vous montrer la difficulté des sociologues, des chercheurs, à inclure et à analyser des pratiques, des discours de populations qui sont qui ont à voir avec le phénomène migratoire. C'est aussi une manière de vous montrer comment les chercheurs sont parfois un peu démunis, parfois un petit peu désemparés, quand il s'agit d'écrire et qu'il s'agit d'interpréter et d'analyser tout un ensemble de phénomènes sociaux en lien avec ces personnes, ces groupes qui ont à voir avec l'histoire migratoire et qui ont un lien avec une trajectoire migratoire. Donc j'avais dans l'idée d'organiser cette communication en trois temps. D'abord, rapidement revenir sur ce qui concerne un petit peu, pas l'étymologie des mots, mais articuler une espèce d'histoire sociale de l'immigration et de vous montrer comment certains mots apparaissent, une espèce de rapide genèse des mots utilisés, dans quel contexte, pour ensuite, très vite, en venir à une mise en regard, une articulation des définitions officielles, parce que du coup, on a aussi des définitions très officielles, très institutionnalisées en France, de qu'est-ce qu'un étranger, qu'est-ce qu'un immigré, et surtout vous montrer que ces définitions officielles sont utilisées, font l'objet de tout un ensemble d'usages sociaux qui, bien évidemment, sont sous-tendus par des logiques, par des représentations sociales. La question clé, la question fil conducteur un petit peu, c'est quelles sont les représentations qui sont véhiculées autour de ces figures de l'étranger, des étrangers en France? Quelles sont les connotations qui sont renfermées dans ces termes-là? Et enfin, ça me permettra de boucler la boucle puisque j'ai pris cet exemple, le troisième temps, c'est de revenir justement sur les difficultés penser et à parler et à définir les enfants d'immigrés, les enfants de migrants, ces fameux jeunes issus de l'immigration. Et vous verrez qu'il y a tout un ensemble d'expressions qui sont utilisées pour parler de certaines personnes descendantes de migrants. Ce sera l'occasion, ce sera une manière un petit peu, cette troisième partie aussi de conclure, de vous rappeler qu'on se trouve dans un contexte bien particulier. C'est pour ça que j'évoquais l'importance du regard des catégories liées à une histoire nationale, qu'on est dans un contexte particulier en France qui est un contexte où il y a un modèle républicain d'intégration très fort, qui ne reconnaît pas l'existence de minorités ethniques, qui se veut aveugle aux différences. Et donc ce serait une manière de vous montrer qu'on a affaire à une ethnicisation des rapports sociaux. Je vous dirai un petit peu ce que renferme ce terme, ce néologisme qui paraît un peu barbare, et comment on peut ou pas penser la question de l'origine et de l'origine ethnique dans ce contexte français. Alors, vous verrez qu'à chaque fois, je vais articuler un ensemble de données socio-historiques, données de cadrage, données de contexte, mais aussi des données de contexte social et politique, mais des données du contexte intellectuel. Quels sont les débats à chaque fois qui traversent les chercheurs en histoire, en sociologie, anthropologie, et qui permettent d'avancer pour comprendre de quoi on parle et de qui on parle, et pour saisir les enjeux autour de ces mots. Alors, très, très brièvement, parce que je suis obligée de dresser de manière un petit peu caricaturale parfois cette socio-histoire de l'immigration, les chercheurs en sciences sociales, de manière générale, s'intéressent donc aux mots. Et ces mots ont une histoire, dans le sens où ils apparaissent dans des contextes particuliers. Parfois, on peut dire que les mots ont une géographie aussi. Ces mots ont une histoire, ont une géographie et sont des enjeux dans les luttes sociales. Ça, on pourra y revenir au moment de la discussion, notamment comment les clandestins ont plus ou moins réussi à se faire appeler des sans-papiers. Il y avait un enjeu derrière en termes de mobilisation et en termes d'appellation pour décrire un peu mieux la situation dans laquelle ils se trouvaient, par exemple. Donc, quand je vous dis les mots ont une histoire, les mots ont une géographie, ils sont porteurs d'enjeux, c'est que chaque époque, chaque contexte se forge et se donne sa propre taxinomie. Et j'insiste bien, les catégories envisagées varient toujours en fonction des situations et des sociétés. Hein, on y reviendra peut-être aussi dans la discussion. On parle d'immigrés ou d'étrangers en France. Aux États-Unis, on parle plutôt d'immigrants. En Italie, il y a d'autres catégories qui servent à désigner les personnes, figures de l'altérité, figures de l'étrangeté. Ces catégorisations sociales donc varient selon les sociétés envisagées. Il y a un fort impact, disons qu'il y a une dimension très nationale dans les modes de désignation de ces personnes, et surtout il y a une variation assez importante des systèmes de dénomination de ces personnes en fonction notamment de l'histoire sociopolitique, des contextes particuliers. Si on s'arrête sur les termes, premier terme, un des premiers termes, de émigré, immigré. Alors, vous avez des préfixes « et « im » qui indiquent le mouvement. Et qui donc, ces termes émigrés et immigrés sont construits à partir du verbe migrer en tant que tel. Quand on parle de émigrer, donc il y a le préfixe et, ça indique le mouvement de sortie, on quitte un pays, on émigre. Quand on parle d'immigrer, à l'inverse, ça indique un mouvement d'entrée. Quand on immigre, c'est-à-dire qu'on rentre dans un nouveau pays, ou dans une nouvelle région, dans un nouveau contexte, dans une nouvelle société. L'émigré, l'apostrophe et, qui quitte son pays, et l'immigré qui rentre dans un nouveau pays, vous aurez bien compris, il s'agit de la même personne. Ça vous paraît évident, mais ça l'a pas été pendant très longtemps, dans la pensée et dans les représentations courantes, mais même dans les travaux proposés par les chercheurs en sciences sociales. Le terme « émigré » est apparu, on peut dire, autour de 1791 en France, à l'époque de la Révolution, et ce terme désignait avant tout toute personne qui quittait la France pour des raisons politiques. Donc on parlait des plus loin émigrés, hein, et apostrophe, qui partaient se réfugier à l'étranger, et ce terme était plutôt marqué d'une connotation assez péjorative, puisqu'en fait il était surtout utilisé par les révolutionnaires qui nommaient ainsi leurs adversaires qui devenaient des exilés politiques. Donc j'insiste bien, c'est toujours intéressant de savoir quels mots on emploie, mais surtout qui emploie ces mots. C'est toujours important de s'intéresser aux usages. Qui parle de quoi, finalement ? Très vite, le contenu sémantique, finalement, de ce terme « émigré » va progressivement évoluer. De moins en moins, il va désigner des réfugiés politiques et de plus en plus, il va désigner des personnes qui s'expatrient pour des motifs économiques. On reste dans le contexte français. Vers le milieu du XIXe siècle, un autre terme va apparaître, c'est le terme de « émigrant ». Il va être utilisé plus particulièrement pour désigner les travailleurs chinois et les travailleurs particulièrement les travailleurs chinois, mais aussi les travailleurs indiens, qui étaient transplantés aux Antilles françaises après l'abolition de l'esclavage, ceux qu'on appellera aussi les coulisses. Donc c'était une expression très spécifique, on sortait du territoire hexagonal pour aller dans le territoire de l'Empire français, des colonies françaises, et on parlait de ces travailleurs chinois et indiens en termes d'émigrants. Jusqu'au début du XIXe siècle, si je vous ramène sur le territoire français hexagonal, ce qu'on appelle la métropole, jusqu'au début du XIXe siècle, un autre terme qui était employé était celui d'étranger. Jusqu'au début du XIXe siècle, le terme étranger, lui, était surtout employé pour désigner celui qu'on ne connaît pas. Celui qui vient du village d'à côté, de la ville d'à côté. Et surtout, c'était un individu, qui suscitait la défiance, la méfiance, dans le sens où on ne le connaissait pas, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ses antécédents. Et plus particulièrement, c'était un individu qui n'offrait pas tout un ensemble de garanties, notamment des garanties de propriété, de domicile ou de famille. On était dans l'idée que c'était l'inconnu qui arrivait dans un nouveau village, une nouvelle ville, et qu'on ne pouvait rattacher à aucun lien d'interconnaissance, réseau, etc. Puis très vite, toujours pendant ce XIXe siècle, la conception juridique du terme étranger va s'affirmer. La conception juridique du terme étranger s'affirme pourquoi ? Parce que pour avoir des étrangers, et notamment dans un pays comme dans les États-nations en général, il faut des nationaux. C'est-à-dire la création d'une catégorie juridique de l'étranger, c'est pour l'opposer à la catégorie juridique du national, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne ici, du français. Donc l'élaboration de cette définition et cette conception juridique de l'étranger, elle va être concomitante et en opposition avec la conception juridique de qu'est-ce qu'un Français, qu'est-ce qu'un national français. Donc ça va être le moment où le fait d'être français, d'être de nationalité française, va conférer tout un ensemble de droits politiques, de droits sociaux. Et c'est le moment où l'appartenance nationale va devenir nationalité. On est de nationalité française. C'est aussi le moment où, de fait, tout un ensemble de discriminations à l'encontre des étrangers, c'est-à-dire des non-nationaux, vont s'approfondir. Ce clivage français-étranger, national-étranger, va être envisagé comme une modalité de ce que je vous disais à l'instant, du clivage le familier ou l'inconnu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il y a une importance accordée à ces questions de critères de famille, de propriété, de domicile. Le familier, c'est celui qu'on peut enraciner dans un groupe local d'interconnaissance. L'étranger, c'est celui qui bouge, qui est mobile, qui est détaché de sa famille, de son voisinage, de sa communauté d'origine, etc. etc. Ce clivage national, non national, est envisagé comme une modalité de ce clivage familier inconnu. Et c'est ce qui permettra, et ce qui fera comprendre, beaucoup d'historiens ont travaillé là-dessus, de saisir le développement des passeports, des cartes d'identité, des titres de séjour, etc., etc. C'est très lié à cette mobilité et au côté, on s'en méfie, on a affaire à un inconnu, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas ses attaches. Au fur et à mesure, donc on est toujours au tournant de ce 19e siècle, au fur et à mesure que la France va devenir un pays d'immigration, et particulièrement un pays d'immigration massive, plutôt vers la fin du 19e siècle, c'est une autre catégorie qui va apparaître, une autre figure sociale, c'est celle du travailleur étranger. Ce travailleur étranger, cette figure sociale du travailleur étranger va retenir toutes les attentions, et notamment l'attention des pouvoirs publics, mais aussi de l'opinion. Et on va voir qu'elle va faire carrière, cette figure du travailleur étranger. En matière d'immigration, jusque dans l'entre-deux-guerres, l'usage le plus courant, c'est de parler de la main-d'œuvre étrangère ou du travailleur étranger. Alors, l'usage le plus courant, c'est donc les notables, les représentants des pouvoirs publics, des pouvoirs locaux et le patronat, même si ce patronat, celui qui a besoin de cette main-d'œuvre étrangère, celui qui a besoin de faire venir des bras pour reconstruire le pays après la guerre, etc., etc., lui est pourtant rassemblé, à partir de 1924, dans ce qu'on appelle la Société Générale de l'Immigration. Donc on commence déjà à avoir un petit flottement, quand même, dans les dénominations et dans cette terminologie. Dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde politique, médiatique, on parle de la main-d'œuvre étrangère, on parle des travailleurs étrangers, et pourtant, il y a cette Société Générale de l'Immigration qui rassemble ce patronat, qui organise et qui gère cette main-d'œuvre étrangère. Très vite, on va donc se mettre à parler d'une main-d'œuvre immigrée. Je vais y revenir. Ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale, surtout, et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, les pouvoirs publics, à partir de 1945, vont décider de prendre en main vraiment la gestion de l'immigration, la gestion de l'entrée et du séjour de cette main-d'œuvre sur le territoire français, et puis, bien évidemment, de leur intégration, de ces travailleurs étrangers, de cette main-d'œuvre étrangère. Et un organisme public va être chargé de réguler cette immigration en liant cette immigration au contrat de travail. La question toujours de la main-d'œuvre étrangère, de cette présence des travailleurs étrangers. Donc on lie le contrat de travail au titre de séjour et les pouvoirs publics vont créer notamment l'ONI, l'Office national de l'immigration. Donc là vous voyez encore qu'on a un autre terme, ce même terme qui est omniprésent. Terme qui va de plus en plus faire carrière et qu'on va généraliser. Et on va généraliser donc notamment l'appellation immigration et qu'on a affaire à des immigrés, plus seulement des travailleurs étrangers ou une main-d'œuvre étrangère, qu'on a affaire à des immigrés. Pourquoi ? C'est très lié notamment au cas spécifique de l'émigration algérienne qui va se développer. Les habitants d'Algérie, puisque l'Algérie est une colonie française, sont français juridiquement, donc ne sont pas censés relever de cet organisme qui est l'Office national d'immigration, mais en même temps, on ne leur reconnaît pas pleinement le fait d'être détenteur de la citoyenneté française. On les voit s'installer de plus en plus sur le territoire français jusqu'à l'indépendance en 62. Donc c'est notamment en lien avec cette présence algérienne qu'on va de plus en plus généraliser l'emploi et l'appellation d'immigrés. Cette appellation, on va y revenir dans un second temps, va très vite être associée à l'ensemble des populations issues des anciennes colonies françaises. Donc ça s'élargit à l'ensemble des Maghrébins et ça va s'élargir à l'ensemble des populations issues des anciennes colonies. Tel qu'il est constitué dans l'ensemble des représentations collectives, l'immigré apparaît comme un homme sans passé, comme un homme sans histoire. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en vous disant l'émigré, celui qui part d'un pays, et l'immigré, celui qui rentre dans un pays, c'est la même personne. C'était absolument pas évident, absolument pas pensé comme ça. On pensait l'immigré, le travailleur étranger, cette main-d'œuvre étrangère, comme quelqu'un qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé. On le pensait à partir du moment où il avait mis un pied sur le sol français. Et c'est là qu'entre en scène notamment un sociologue très important, sociologue algérien, qui a beaucoup travaillé avec un autre grand sociologue qui est Pierre Bourdieu, un sociologue français. Ce sociologue, c'est Abdelmalek Sayad. Donc vous aurez les références d'une de ses œuvres dans la bibliographie que je vous distribuerai tout à l'heure. Abdelmalek Sayad a joué un rôle très important. On peut dire qu'il a participé à une espèce de petite révolution scientifique en France concernant ce champ de la sociologie et cette étude de l'immigration, où il dit: on fait une erreur fondamentale quand on pense et qu'on réfléchit sur ce phénomène migratoire et sur les immigrés. On oublie que les immigrés sont aussi des émigrés, qu'on a affaire aux deux facettes d'un même phénomène. Et surtout que ces gens-là, quand ils agissent, quand ils pensent, dans la vie de tous les jours, ils agissent autant en tant qu'émigré, quelqu'un qui est parti d'un pays avec une histoire particulière, dans un contexte particulier, avec un projet particulier, et il agit, il pense en même temps en tant qu'immigré, c'est-à-dire quelqu'un qui doit s'adapter à une nouvelle société, comprendre de nouveaux codes, s'adapter à des nouvelles cadences de travail, etc., etc. Donc ce sociologue Abdelmalek Sayad nous dit il est absolument fondamental de penser l'immigré et l'immigré ensemble, et de ne pas seulement s'intéresser à eux qu'à partir du moment où ils s'installent en France, et donc de les détacher de leur trajectoire et de leur passé et de leurs histoires. Ce tournant-là, c'est au tournant des années 60-70. Les années 70, toujours dans le contexte français, elles sont marquées aussi par la prédominance d'une mode de pensée en termes de classe sociale. Donc très vite, il y a cette figure du travailleur immigré qui s'installe et qui continue à être la figure qui domine dans le paysage français, dans les représentations collectives. On parle du travailleur immigré. On est dans un contexte où on pense les luttes de classe, et c'est la figure sociale du travailleur qui est la plus efficace, qui est la plus diffusée. J'insiste bien, c'est cette figure-là qui est la plus efficace, parce qu'on pense ces personnes-là et on justifie leur présence parce qu'il y a le travail. Ils sont venus pour travailler. Et certains discours extrémistes iront jusqu'à dire à légitimer la volonté de voir partir ces personnes quand va se développer le chômage. Donc on est vraiment dans cette idée de ce qui légitime leur venue, c'est le travail et le fait qu'ils incarnent avant tout une main-d'œuvre. Les années 80 vont être un tournant important, et d'après ce que j'ai compris, c'est aussi au moment des années 80 que dans le contexte italien, par exemple, il va y avoir un changement assez radical des représentations du phénomène migratoire. Dans le contexte français, qu'est-ce qui se passe? Les années 80, jusqu'à présent, on pensait cette présence étrangère et immigrée comme provisoire. On avait affaire à des gens qui venaient en réponse à des appels de main-d'œuvre, notamment, qui allaient forcément rentrer chez eux à un moment donné. Les années 80 vont bouleverser un petit peu cette tendance à penser la présence étrangère et immigrée de manière provisoire, parce que plusieurs événements politico-médiatiques vont émerger dans la scène publique française et vont notamment mettre en scène, ou en tout cas rendre visibles, les enfants de ces immigrés, les enfants de ces travailleurs immigrés, ceux qu'on va appeler de manière très approximative les secondes générations, etc., etc. J'y reviendrai dans un troisième temps. On voit apparaître ces enfants d'immigrés qui sont pour la plupart nés sur le sol français ou arrivés très jeunes, qui ont en tout cas été socialisés en France, et qui prennent la parole, notamment pour dénoncer tout un ensemble de discriminations dont ils sont victimes. Dénoncer tout un ensemble d'inégalités de traitement, et qui vont revendiquer, justement, une égalité de traitement. Pourquoi je vous dis qu'on assiste à un tournant important dans les représentations collectives? C'est aussi parce que ces années 80 sont notamment marquées par l'émergence du Front National, donc d'un parti politique qui va prendre en charge la xénophobie dans le pays, hein, qui revendique un parti d'extrême droite, et qui va surtout interpeller les chercheurs, les sociologues, les historiens, puisque ce parti politique va notamment mettre en avant la question de l'identité nationale, de cette présence étrangère, etc., etc. Donc, les historiens notamment, et les sociologues dans la foulée, vont commencer à essayer à réfléchir et vont révéler un phénomène important, c'est que jusqu'à présent, la France ne s'est jamais pensée comme un pays d'immigration. La France a toujours nié, c'est Gérard Noiriel notamment qui parlera d'un déni de mémoire, la France a pris conscience très tardivement qu'elle était un pays d'immigration. Donc certains sociologues vont dire que la France est un pays d'immigration qui s'ignore ou qui s'est longtemps ignoré. Pourquoi le pays, les gens, la société, la manière dont la société se pensait, pourquoi elle a mis si longtemps à se penser comme un pays d'immigration? C'est notamment lié aux modalités de la construction nationale, de comment s'est construit notre État-nation. Et là encore, on y reviendra peut-être dans la discussion, on pourrait faire des ponts avec ce qui s'est passé notamment aux États-Unis. Dans les manuels scolaires, par exemple, d'histoire, l'immigration est totalement invisible. Elle est pensée, en tout cas, comme extérieure. Elle est considérée comme n'ayant rien à voir avec la construction nationale française. Et donc ne participant pas à sa construction nationale. Donc l'immigration n'aurait rien à voir avec les Français, avec leur passé, le passé des Français. Il y a bien cette idée que l'ensemble des grands mythes fondateurs de la nation française ont été mis en place bien avant cette immigration massive qui commence, je vous ai dit, fin 18e, début 19e siècle, et que donc on n'arrive pas à penser, à articuler l'histoire de la construction de la nation et cette présence étrangère et immigrée en France. Avec donc la prise en compte, le fait que ça y est, on commence à considérer que ces migrants vont rester, non seulement ils vont rester parce qu'ils mettent au monde des enfants qui s'installent, que des familles, donc ça fait plusieurs années que les familles se sont installées dans le pays, que leurs enfants sont socialisés, que leurs petits-enfants sont socialisés en France, et on prend acte donc que, avec donc l'arrivée des familles, de cette présence beaucoup plus durable. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la terminologie? De travailleurs immigrés, on passe à immigrés, tout court. On enlève, on dissocie l'expression. Du travailleur immigré, on passe à l'immigré. Et cet immigré, cette figure de l'immigré, va être associée à tout un ensemble de connotations plus ou moins défavorables, disqualifiants, mais j'y reviendrai après. Donc, très rapidement, on se retrouve en France, au tournant des années 80-90, dans un pays où finalement, comment on pense cette présence étrangère et immigrée? On la pense de plus en plus comme quelqu'un qui était peut-être venu pour travailler, mais en fait, maintenant, c'est quelqu'un qui est venu pour s'installer en France. Donc, c'est, certains diront, la fin du mythe d'une présence provisoire, qui se confirme, je vous dis, au tournant des années 90. Cette période est aussi marquée par un autre événement, ça me semble important, c'est le développement d'une politique d'intégration et de l'institutionnalisation de cette notion d'immigré. Développement d'une politique d'intégration, ça veut dire que tout d'un coup, les pouvoirs publics mettent en place tout un ensemble de structures, le Haut Conseil à l'intégration, un ministère des Affaires sociales et de l'intégration, de structures pour penser l'intégration de ces personnes. Et on va voir aussi que pour mettre en place une politique, il ne suffit pas d'avoir des ministères, des budgets, etc. Il faut aussi avoir un public cible. Donc, non seulement on met en place une politique d'intégration, mais elle est à destination de qui? Elle est à destination des immigrés. Donc il va falloir définir beaucoup plus précisément qui sont ces immigrés qui sont censés bénéficier, mais aussi jouer le jeu de répondre à tout un ensemble d'injonctions liées à cette politique d'immigration. Je vais y revenir rapidement. Dernier point quand même important, c'est que ce terme immigré va poser un problème très rapidement. C'est la question et le problème du statut qui va être réservé aux enfants d'immigrés, c'est-à-dire à ceux qui n'ont jamais migré, qui n'ont jamais quitté un pays pour venir s'installer dans un autre pays. Alors, c'est l'occasion pour moi d'arriver sur le deuxième axe qui me semble important. Le contenu officiel, le contenu institutionnel de ces catégories-là, et surtout les usages sociaux qui sont faits de ces catégories dans la vie de tous les jours, en essayant de vous montrer comment un ensemble d'amalgames sont faits et le poids des perceptions et des représentations. Deux niveaux vont être articulés, le discours officiel et le langage courant. Dans le langage courant, je vous le disais en introduction, immigré, étranger, ça paraît des synonymes, et très régulièrement, on emploie un terme pour l'autre, que ce soit dans les médias, dans les discours politiques, dans la vie courante. Pourtant, on va se rendre compte que très vite, finalement, les catégories statistiques vont pouvoir rendre opératoires ces fameuses catégories du langage courant, présentes dans le débat politique, et vont les entériner, vont en faire des catégories officielles et surtout des catégories légitimes. Vous allez comprendre. Regardons d'abord ce qui se passe du côté de la catégorie étranger. Vous avez vu qu'il y a eu des évolutions quand même, qu'il y avait un flou un petit peu, puis qu'ensuite on a essayé de spécifier et de lui donner un contour et un contenu très juridique. La clarification va donc commencer par le concept d'étranger, où on donne une définition très opérationnelle, hein, du point de vue statistique, est étrangère toute personne qui ont une résidence permanente en France et qui, au moment de la déclaration notamment du recensement général de la population, qui déclare ne pas avoir la nationalité française. Donc là, c'est une définition qu'on retrouve donc donnée par l'INSEE et l'INED, l'Institut national d'études démographiques. C'est une définition très technique, hein, et qui met en avant le critère juridique. On est ou pas de nationalité française, on réside en France. C'est quelque chose qui permet de spécifier très rapidement et de savoir à qui on a affaire, de donner des contours très précis à ces populations désignées comme étrangères. Donc, une acceptation très courante de ce terme va définir celui qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel il se trouve. Mais dans le langage, dans l'usage courant, le terme étranger va aussi vouloir dire celui qui n'est pas d'ici ou celui qui n'est pas des nôtres. Et une constante du sens commun va être de finalement, une fois de plus, vouloir rendre suspect, probablement fautif, en tout cas l'idée qu'il faut le craindre et s'en méfier, cet étranger, en associant cette figure de l'étranger à l'idée d'une condition inférieure ou d'un statut inférieur. Le terme peut désigner celui qui ne semble pas avoir la nationalité française. Et c'est ce qui me permettra de faire le pont avec mon troisième point, c'est-à-dire très vite, on va parler d'étranger quand on va regarder ou percevoir ou désigner des personnes qui ne sont pas spontanément considérées comme membres de la communauté nationale sous le motif très variable, sous les motifs très variables que, par exemple, sa langue, son apparence physique, son nom, son patronyme, sa religion, son mode de vie, son système de valeurs, etc., ne seraient pas conformes à ce qui représente la norme majoritaire, c'est-à-dire ne seraient pas conformes à la société française. Et très vite, on va se rendre compte qu'on a affaire à tout un ensemble de prises de position quand il s'agit de catégoriser certaines personnes de nationalité étrangère qui sont très fluctuantes en fonction des images sociales et des figures sociales qui les associent. Un Américain, un touriste américain, un Japonais, des hauts fonctionnaires d'ambassade, etc., de différentes nationalités, ne sont pas considérés comme des étrangers de la même manière que des populations portugaises ou issues des pays du Sud ou de l'Europe de l'Est. Deuxième, si on s'arrête maintenant sur une deuxième catégorie, la catégorie d'immigrés, je vous parlais tout à l'heure de son institutionnalisation dans les années 90. Là encore, les organismes publics producteurs de statistiques publiques décident de donner une définition officielle et très précise de qu'est-ce qu'un immigré. Donc, jusqu'à présent, l'immigré, il y avait cette figure du travailleur, ses enfants et sa femme étaient eux-mêmes des immigrés, on avait cette tendance à un peu amalgamer tout le monde, il y avait une figure sociale associée à certaines professions, certains lieux d'habitation. Les pouvoirs publics décident, je vous disais, c'est très lié à la mise en œuvre de cette politique d'intégration, de donner une définition très précise de qui sont les immigrés, pour les compter, pour les comptabiliser, et je vous dis, pour les cibler, par tout un ensemble de dispositifs et de procédures liés à la mise en place de cette politique d'intégration. Cette institutionnalisation, elle va passer par la diffusion de tout un ensemble de recherches menées par des sociologues et par des démographes, et donc cette nécessité de donner un contenu à une catégorie du sens commun. Vous vous souvenez quand même que depuis 1924, il y a une Société Générale de l'Immigration, puis on a tout un ensemble de structures qui ont le « i » de « immigré » déjà formulé, déjà présent. Sauf qu'on était quand même, on laissait régner cette espèce de flou-là. Dans l'appareil statistique, on va décider que, autant pour l'étranger, le critère principal, c'est un critère juridique qui est la nationalité, est étranger celui qui ne possède pas la nationalité française, autant pour donner un contenu, une définition très précise de la catégorie immigré, le critère proposé par les statisticiens, par les démographes, ça va être le lieu de naissance, le pays de naissance. Donc, est immigré en France toute personne née étrangère à l'étranger et qui vient s'installer et résider en France, quelle que soit sa nationalité en France. Donc, à la fois, les statisticiens, les démographes, les pouvoirs publics entérinent et officialisent et désignent un groupe bien particulier, un groupe stable dans le temps, puisque le critère principal, c'est le lieu de naissance. Donc à partir du moment où on connaît votre lieu de naissance, jusqu'à la fin de vos jours, vous serez toujours né au même endroit. Donc c'est le critère par excellence qui fait que vous ne pourrez pas sortir de la population immigrée, quand on reste dans le domaine de la démographie, des études à grande échelle, etc. À l'inverse, vous pouvez sortir de la catégorie étranger, cette catégorie officielle. Comment on sort de la catégorie étranger ? En changeant de nationalité. Donc à la fois, il y a l'idée de permettre, de donner une précision et de permettre de fixer des contours bien particuliers pour penser, pour réfléchir, pour compter, pour cibler ces populations-là. Et en même temps, il y a cette idée de... Il y a ces catégories-là. Et ce dont on va se rendre compte, c'est que dans la vie de tous les jours, dans les usages courants, on va là encore voir jouer un amalgame et un flou qui va petit à petit, de la part même des personnes ciblées par ces catégories soi-disant très officielles avec des contours très limpides, très clairs, osciller entre ces deux catégories. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que finalement, avec ces deux définitions officielles, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a affaire à plusieurs situations. Tout immigré n'est pas étranger et tout étranger n'est pas forcément immigré. Je vous demande de réfléchir à ça. On y reviendra dans la discussion. On a affaire à ces deux catégories qui brouillent parfois ou qui donnent lieu à des situations parfois assez complexes pour les chercheurs, pour les pouvoirs publics locaux et pour les personnes elles-mêmes. Donc là, vous avez la définition officielle de qu'est-ce qu'un immigré. J'en viens à ces usages sociaux de la catégorie immigré. La catégorie immigré, c'est la catégorie du sens commun par excellence. Je l'ai assez répété. C'est celle qui est la plus fréquemment utilisée dans les discours politiques, dans les discours médiatiques, journalistiques, etc. Elle a été longtemps l'équivalent de l'expression « travailleur immigré ». Et surtout, c'est une catégorie qui renvoie à une position à part dans la nation française, dans la société. C'est une catégorie qui renferme une connotation négative et qui, à chaque fois, est associée, qui devient le support d'un classement social dévalorisant. Tous les travaux mis en place, enfin, qui ont été menées par tout un ensemble de chercheurs, montrent bien comment ce terme renvoie à une position, renvoie déjà, évoque une origine post-coloniale d'un pays du Sud, d'une ancienne colonie, et renvoie à l'idée que la personne est souvent peu qualifiée, c'est les travaux notamment d'Abdelmalek Sayad, et renvoie surtout à cette idée d'un statut, d'une condition sociale et d'un statut précaire plutôt dévalorisant et disqualifiant. Dernier point qui me permettra de conclure, l'usage du mot immigré dans le discours ordinaire, mais aussi dans le cadre des études menées par les différents chercheurs en sciences sociales, devient très vite insatisfaisant quand il s'agit de s'intéresser au parcours, aux trajectoires, à la mobilité sociale des enfants de ces personnes qui ont immigré. Un problème va se poser quand il s'agira de définir ces populations une grande partie des chercheurs vont, mais même des individus eux-mêmes, vont dénoncer le fait d'être considérés, perçus, désignés comme immigrés, alors qu'ils n'ont absolument jamais migré, et que parfois même leurs parents n'ont pas migré, et qu'ils ont un lien avec l'immigration au troisième niveau de leurs ascendants. Ce flou et cet amalgame et cette insatisfaction quand il s'agit de désigner ces enfants d'immigrés est très lié au contexte français. Je vous disais tout à l'heure, la France se veut être un pays qui ne reconnaît pas l'importance de l'origine. Les pouvoirs publics français ne reconnaissent que des citoyens, des individus égaux devant la loi, par la loi, face à un État, et ne reconnaissent pas le poids de l'origine ethnique, religieuse, etc., etc. Donc la France ne reconnaît pas l'existence de minorités ethniques. Le fait est que ces descendants d'immigrés, ces descendants d'étrangers, continuent à être perçus et à être amalgamés avec cette population étrangère immigrée, alors que nous avons affaire à des personnes de nationalité française, nées en France, socialisées en France, et qui, normalement, ne devraient pas être mises à part, catégorisées, stigmatisées, cataloguées. Ce débat va arriver en France dans les années 80, mais surtout 90, au moment où, justement, beaucoup de chercheurs vont écrire sur le fait que les catégories en présence dans le débat français ne sont pas satisfaisantes et vont surtout dénoncer et analyser toutes les catégories qui sont utilisées, celles de deuxième génération, celles de jeunes d'origine étrangère, celles de jeunes issus de l'immigration, en montrant comment on fait naître une hérédité et on naturalise et on donne au phénomène migratoire un statut quasi naturalisant, voire raciste. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que de plus en plus, on se rend compte que du statut transitoire lié au phénomène de demande d'appel de main-d'œuvre, etc., etc., l'immigré va être considéré sous l'angle de tout un ensemble d'attributs. Sa religion, le pays de naissance de ses parents, des attributs ethniques, des attributs culturels qui vont être considérés comme transmissibles. Et ça va être le grand point important qui va être mis en avant, c'est qu'il va falloir de plus en plus considérer qu'on a affaire à des gens qui sont systématiquement renvoyés à une origine, à des pratiques, on va utiliser tout un ensemble de variables qui vont spécifier ces catégories-là et qui vont faire dire aux chercheurs, et pas seulement aux chercheurs, aux travailleurs sociaux, aux instituteurs, aux bailleurs HLM dans le logement, etc., que de fait, la catégorie étranger ou français ou la catégorie immigré ne suffisent pas pour décrire et pour penser ce que vivent des populations, des phénomènes particuliers qui se produisent dans la société française. Donc tout d'un coup, le patronyme, le lieu de naissance, le lieu de résidence, l'imputation religieuse, etc., etc., vont devenir des marqueurs sociaux, des marqueurs qui vont permettre, des marqueurs distinctifs entre les gens, qui vont jouer un rôle déterminant et un rôle fondamental dans les actions et dans les interactions des gens. Donc on a affaire finalement à une société française qui maintenant, depuis une trentaine d'années, vit ce qu'on appelle une ethnicisation des rapports sociaux. C'est que finalement, on est amené à devoir penser et admettre que certaines populations sont constituées en minorités ethniques de par la stigmatisation dont elles font l'objet et de par ce renvoi particulièrement constant à une origine, à des différences culturelles, à des différences qui seraient rapportées à une origine réelle ou supposée, et que ça donne un statut aux acteurs sociaux, et que c'est ce qui devient central pour penser ces personnes. Donc ce n'est plus le statut « j'ai migré » ou « je suis né dans un pays étranger, je suis venu m'installer en France », c'est tout un ensemble d'autres marqueurs qui vont être déterminants pour penser cette présence, et puis qui vont être déterminants dans la vie de tous les jours et dans l'accès à tout un certain nombre de ressources. Donc on est à la fois dans un contexte où on ne reconnaît pas officiellement les minorités ethniques et dans les faits, dans la vie de tous les jours, on est obligé d'admettre et d'accepter qu'en termes de, dans les classements sociaux, dans les modalités de vivre ensemble, c'est cette attribution de différences culturelles rapportée aux origines devient déterminante et centrale dans l'action des gens, dans les interactions des gens. Je vais rapidement peut-être conclure pour en fait conclure sous forme de si possible de pistes pour vous donner l'occasion peut-être de rebondir sur ce que je vous ai dit. Pourquoi je me focalise plus particulièrement sur cette question de minorité ethnique, stigmatisation, l'idée que finalement on ne veut pas reconnaître certaines différences, parce que la France n'est pas un pays qui reconnaît le poids des origines ethniques, religieuses, etc. C'est parce que finalement, ce qui se cache derrière ces catégories jeunes issus de l'immigration, seconde génération, jeunes d'origine étrangère, etc., etc., ça revient à définir ces personnes comme forcément des autres, des gens qui n'appartiennent pas spontanément au nous collectif de la société française. Ça revient à créer tout un ensemble de frontières et ça revient à définir ces personnes comme autres par héritage de l'altérité de leurs parents. C'est-à-dire leurs parents, que ce soit, ou même leurs grands-parents qui ont migré, qui effectivement sont nés, ont été socialisés dans d'autres pays, dans d'autres contextes socioculturels. Ces personnes, ces descendants de migrants, ces descendants de populations étrangères se retrouvent constamment renvoyés à une certaine altérité, une certaine extériorité par héritage de l'altérité de leurs parents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces appellations concernent surtout et particulièrement des groupes issus, notamment, généralement, dont les parents venaient des pays anciennement colonisés par la France. Je vous dis ça parce que cette expression « seconde génération », par exemple, n'a jamais fait carrière et n'a jamais eu d'efficacité, n'a jamais été reprise dans la vie de tous les jours, concernant les enfants de Polonais, ou les petits-enfants de Polonais, les petits-enfants de Portugais, d'Espagnols, etc., etc. Alors qu'eux-mêmes ont participé, ont eu une existence et une visibilité sur la scène publique, où les enfants de Belges, d'Italiens, etc., ils n'ont jamais été produits comme une figure collective qui avait un sens particulier dans la société française. De fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je pose la question de pourquoi on ne parlerait pas de minorité ethnique, plutôt de continuer à parler d'étrangers ou d'immigrés dans ces pays, on a cette construction d'une catégorie sociale du jeune issu de l'immigration, du jeune d'origine étrangère, qui, à mon sens, encourage à poser la question de pourquoi on en est encore à entretenir cette incertitude d'une appartenance, d'une légitimité et d'une appartenance pleine et entière à la société française. Alors, je vais en rester là. Vous encouragez à toujours vous interroger sur les termes, les mots que vous employez ou les mots que vous lisez ou les mots que vous entendez. Et surtout, à chaque fois, vous demandez finalement, non pas quelle est la définition précise du terme, mais plutôt savoir quel est l'usage qui en est fait, quel est l'enjeu, quelle est la logique et qu'est-ce qui est visé par celui qui emploie ce terme, et voir comment est construit le critère d'appartenance à ce groupe. Et si vous réfléchissez bien, toutes ces différentes expressions que j'ai employées, jeune issu de l'immigration, seconde génération, jeune d'origine étrangère, jeune des quartiers, souvent on les rend synonymes, hein. Il y a eu des glissements très, très subtils qui font que maintenant on peut parler des jeunes des quartiers. A priori, tout le monde a une image assez précise de qui sont les jeunes des quartiers, et il y aura des origines particulières qu'on va associer à cette expression, à cette figure du jeune du quartier. Posez-vous la question, quel est le critère qui permet de créer ce groupe, et quel est le critère qui fonderait l'appartenance à ce groupe. J'ai pas la réponse, mais une des réponses, c'est notamment la stigmatisation, le regard que les gens portent sur ces personnes. Ce qui fait que ces personnes appartiennent au même groupe, c'est qu'ils sont tous perçus comme différents du reste de la société française. Donc, voilà, l'idée de vous faire réfléchir sur ces jamais affaire à des catégories neutres, au contraire, elles sont toujours associées des logiques, des connotations bien particulières, et ces figures sociales et ces catégories sociales qui sont véhiculées, qui sont proposées, qui sont parfois institutionnalisées, invitent, je pense, à non seulement être vigilant, mais surtout à penser le fait que ces personnes qui sont renfermées dans ces catégories sont avant tout le produit d'une désignation et le produit d'une perception. Voilà. Je vais en rester là pour la conférence en tant que telle, et puis je vous laisse la parole pour poursuivre. Merci.